Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, donc l'émission de vulgarisation scientifique, en effet, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Internet en direct ou en différé. Il y a tous les podcasts, bien sûr, de toutes les émissions que vous pouvez récupérer sur le site graphite.net, bien sûr, et rediffusion tous les mardis matins à 10h. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Et au niveau de l'actualité, en termes d'éphémérides, pas mal de choses se sont passées quand même le 10 mai 1869. L'achèvement de la première liaison ferroviaire transcontinentale américaine. Nous sommes au nord de Salt Lake City, dans l'Utah. C'était en 1869 quand même. Beaucoup plus proche de nous, en 1960, le lancement de la production de la première berline française équipée d'un moteur à injection. C'est la Peugeot 404 en 1960. Et puis plus proche de nous quand même, en 2016, l'annonce par la NASA de la découverte de plus de 1200 nouvelles planètes grâce au télescope spatial Kepler. Et puis il y a 2 ans, on apprenait que 7 autres satellites naturels de Saturne étaient annoncés également au niveau spatial. Le 10 mai est une journée assez importante. Naissance le 10 mai 1788 d'Augustin Fresnel, ingénieur et physicien français dont les recherches en optique ont conduit à l'acceptation définitive de la théorie ondulatoire de la lumière en remplacement d'une autre théorie qui était la théorie balistique qui s'était imposée depuis Newton. Bien que Fresnel puisse être considéré comme un physicien théoricien ou physicien mathématicien, il n'a eu que peu de temps pour se consacrer à ses recherches fondamentales. Son métier était ingénieur des ponts et chaussées. À ce titre, il a apporté des améliorations considérables à la luminosité des phares en inventant les lentilles à échelons ou les lentilles de Fresnel. Fresnel qui est mort à 39 ans, donc il a une vie assez courte, mais l'excellence et l'importance de ses travaux ont tout de suite été reconnus par ses contemporains. Il a été quand même élu membre de l'Académie des sciences en 1823, donc il avait un peu plus d'une trentaine d'années. Il était membre associé de la Royal Society également, et il a reçu une médaille, la médaille Rumford, sur son lit de mort en 1827. Augustin Fresnel. Décès le 10 mai 1787 à Londres de Sir William Watson, physicien et botaniste britannique. Et lui, il a travaillé également sur la connaissance de l'électricité qui lui a donné sa renommée. Donc on est à la fin du 18e siècle avec donc le décès le 10 mai 1787 de Sir William Watson. Voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, cette partie éphéméride, d'avoir des références un peu historiques, des références de dates. Nous sommes en 2025, que se passait-il? À quel moment on a inventé tel ou tel objet de notre quotidien? Voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu de perspective, de recul sur certaines choses. C'est ça qui est également intéressant dans cette émission. Alors, il y a pas mal d'articles que je voulais évoquer dans cette émission. Et je trouvais assez intéressant de commencer avec cet article de Futura Science qui revient sur les créateurs de la bombe atomique qui racontent leur première réaction. L'essai nucléaire Trinity qui représente un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Cette première détonation atomique qui a été supervisée par Robert Oppenheimer dans le cadre du projet Manhattan a non seulement démontré la faisabilité d'une arme nucléaire, mais a également profondément marqué ceux qui y ont insisté. Les témoignages recueillis lors de ce test historique révèlent l'impact psychologique et émotionnel d'une technologie qui allait à jamais changer la face du monde. Richard Feynman, qui est un physicien brillant, avait choisi une approche singulière pour observer l'explosion. Plutôt que d'utiliser les lunettes foncées qui étaient fournies, il s'installa dans la cabine d'un camion face à Alamor Gordo, qui considérait que le pare-brise le protégerait des rayons ultraviolets nocifs. Et malgré cette protection, eh bien, il s'accroupit instinctivement lorsque l'horizon va s'illuminer d'un éclair éblouissant. Et lorsqu'il va relever les yeux, Feynman observa une transformation chromatique saisissante, une grande boule orange dont le centre extrêmement lumineux devient une sphère orange qui commence à s'élever et à bouillonner légèrement. Alors, c'est un spectacle assez surréaliste, qui se poursuit avec l'apparition de noirceur sur les bords, laissant place, dit-il, à une grande boule de fumée avec des éclairs à l'intérieur du feu qui s'éteignent. Ce n'est qu'une minute et demie après l'explosion que le scientifique entendit finalement le grondement assourdissant. Bob Cerber, il est également situé à 32 km du site. Il vécut une expérience similaire, mais avec une conséquence inattendue. Il était allongé face contre terre, avec un verre de soudeur devant les yeux. Et il a été momentanément aveuglé lorsque, par fatigue, il a abaissé sa protection au moment précis de la détonation. Sa vision n'est revenue que 30 secondes plus tard, lui permettant d'apercevoir une colonne violette qui s'élevait jusqu'à 9 km d'altitude. Les réactions des témoins oscillaient entre émerveillement scientifique d'un côté et effroi existentiel. James Conant, qui est surpris par l'intensité lumineuse qui envahit tout le ciel, crut pendant un instant que quelque chose avait mal tourné et que le monde entier s'était embrasé, dit-il. Joe Ischfelder, qui est un chimiste, il était chargé de mesurer les retombées radioactives. Il décrivit ce moment avec précision. Il dit « La froideur se transforma en chaleur. La boule de feu passa progressivement du blanc au jaune, puis au rouge, tandis qu'elle grandissait et s'élevait dans le ciel. Et après environ 5 secondes, l'obscurité revient. Mais le ciel et l'air étaient emplis d'une lueur violette, comme si nous étions entourés d'une aurore boréale. » Frank Oppenheimer, qui est le frère de Robert Oppenheimer, il fut particulièrement frappé par l'aspect menaçant du nuage radioactif qui se forma après l'explosion. Il se souvient de cette nuée violette, vraiment brillante, noire de poussière radioactive qui flottait là. Et ça générait une angoisse palpable. Il dit « on ne savait pas si elle allait monter ou dériver vers nous ». Et donc les témoignages révèle des sensations physiques intenses ressenties par les observateurs, une chaleur qui était palpable à 32 km de distance de l'explosion quand même, une lumière si vive qu'elle traversait les paupières qui étaient fermées, un grondement qui rebondissait contre les montagnes qui étaient lointaines et un changement instantané de température dans l'air ambiant. Le principal architecte de ce projet colossal, qui est donc Robert Oppenheimer, vivait un moment de tension extrême. Il était allongé face contre terre à l'extérieur du bunker de contrôle qui était situé à environ 10 km. Et il murmura « Seigneur, ces affaires sont dures pour le cœur ». Et un général de l'armée qui l'observait attentivement et puis il a noté qu'Oppenheimer respirait à peine pendant les dernières secondes du décompte. Lorsque l'explosion se produisit, son visage, se détendit en une expression d'immense soulagement et son frère, Frank, rapporta simplement qu'ils avaient probablement dit « ça a marché ». Il y a un autre également qui s'appelle Isidore Rabi, qui est physicien, il était présent ce jour-là. Il fut marqué par l'attitude d'Oppenheimer après le test. Sa démarche reflétait celle d'un homme maître de son destin. Rappelons donc à Isidore Rabi, un personnage de western, il dit « Je n'oublierai jamais sa démarche, je n'oublierai jamais la façon dont il est sorti de la voiture. » Sa démarche était une sorte de démarche acrobatique, il avait réussi. Et lorsque le journaliste du New York Times, William Lawrence, l'approcha plus tard pour recueillir ses impressions, Oppenheimer décrivit sobrement ses émotions face à la détonation comme terrifiante et pas entièrement déprimante. Et après une pause, il ajoute Oppenheimer avec gravité « Beaucoup de garçons, pas encore adultes, lui devront la vie », dit-il. Voilà, c'est assez intéressant cet article de Futura Science qui revient un petit peu sur les premières impressions des créateurs de la bombe atomique. Il y a ce film Oppenheimer là, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, maintenant, qui est vraiment fascinant et intéressant si vous avez eu la chance de le voir, bien sûr. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous conseille vraiment de le regarder. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que le film ne permet pas malheureusement de donner. Ce sont toutes ces sensations presque corporelles, presque physiques que eux ont pu ressentir. Une chaleur palpable à 32 km de distance, c'est quand même assez impressionnant, bien évidemment. Voilà, on va un petit peu entre nous feuilleter un petit peu la revue de presse de l'actualité et puis on va écouter un petit peu de musique. Oh oui, tiens, allez, faisons-nous plaisir, on va écouter un peu de musique et puis on continue comme ça ensemble à nous informer sur l'actualité scientifique. Bienvenue sur Graphite, passez une bonne journée avec nous.
mom's apron off her mother's little yellow helper. Helpers, peppers, helpers. Gucci club, my TV crew. Extra olives just won't do. Value makes this soul get higher and enables faking fire. Queen bee is loose to wasps. Brittle and fill Debbie's haunts. When you don't like what you see, hiding's easy in the SUV. Schizophrenic, pathogenic, psychogenic, hallucinogenic, photogenic, authentic, huge, intelligent. Manic, depressive, aggressive, psycho, obsessive, possessive, attention deficit disorder, handheld cassette recorder. ADD, ADD, SUV, SUV.
I gotta call my friend. Wait a minute, what'd I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Memento, but I don't have a pen. Wait a minute, hey, hey, this the type of beat that make the ghetto girls play. Take a hit of haze, listen to Dre. And when she seen P-Man, you know she couldn't hate. That ghetto P and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help if I see everything in neon.
Schizophrenic, pathogenic, psychogenic, hallucinogenic, photogenic. Authentic, huge, intelligent. Manic, depressive, aggressive, psycho, obsessive, possessive. Attention deficit disorder. Handheld cassette recorder.
I know they think that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me. And they can't see, that's why they blame me. Tell the women hi, I dip and die. I skip and fly, I'm a different guy.
When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me a trip to cloud nine. Headache says that things just sit. I'm driving in the SUV. ADD takes over me. Cruise control, reins full power, so the dolls can play with nose powder. Pull up to another dinner party hosted by Malibu Barbie. Pretty and cream princesses, candy floss, best wishes.
Ça s'arrête toujours comme ça. ADD est suivi de Ufi sur l'antenne de Graphite. Ça m'a surpris, désolé. J'étais en train de regarder un petit peu les différents articles que l'on va étudier. Alors, deux articles d'un point de vue médical. Alors, une première, un point de vue médical au sens large. C'est cette étude japonaise parue dans la revue Nature Metabolism qui porte sur plus de 680 individus âgés de 3 à 78 ans. Donc, le panel n'est pas nombreux mais assez intéressant au niveau de l'âge. Et cette étude a étudié l'impact de la saison de conception sur l'activité de notre tissu adipeux brun. L'idée, c'est que le résultat est assez surprenant. Les personnes conçues pendant la période froide présenteraient une activité plus intense de leur graisse brune. Mais alors, quelles sont les conséquences sur le poids, la silhouette et plus largement sur notre métabolisme ? Eh bien, cette équipe japonaise et notamment le responsable Takeshi Yoneshiro, selon cette équipe, être conçu entre octobre et avril serait associé à une meilleure activation de la graisse brune. Ce tissu, qui est présent chez tous les humains, mais en quantité variable, est capable de brûler des calories pour produire de la chaleur. C'est un processus qu'on appelle la thermogenèse. Et il en découle une augmentation de la dépense énergétique, une baisse de l'indice de masse corporelle et une quantité moindre de graisse accumulée autour des organes vitaux. Un avantage métabolique, bien évidemment, qui semble se maintenir à l'âge adulte. Et donc l'équipe japonaise avance l'hypothèse d'un phénomène épigénétique, c'est-à-dire qu'il y aurait des conditions environnementales comme le froid. Si on était conçu en hiver, eh bien, ces conditions modifieraient temporairement l'expression de certains gènes au moment de la fécondation. Et ces micro-ajustements biologiques transmis dès les premiers stades du développement pourraient impacter la façon dont notre corps stocke et brûle les graisses tout au long de la vie. Une piste encore en exploration, mais qui souligne l'influence insoupçonnée de notre environnement avant même notre naissance. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Et voilà, c'est cette étude qui révèle donc que la saison de notre conception aurait une influence sur notre poids à l'âge adulte. Moi, je comprends pourquoi je ne suis donc pas été conçu en hiver. Mais voilà, peut-être, je n'en sais rien. Deuxième article d'un point de vue médical, et cette fois un petit peu moins réjouissant, c'est l'omniprésence des microplastiques dans notre environnement qui franchit une nouvelle frontière alarmante. Une étude qui a été publiée il y a quelques mois, dans The International Journal for Implant Research, cette étude révèle la présence de ces particules dans le pénis humain. Cette découverte s'ajoute aux précédentes détections dans les testicules et dans le sperme, ce qui confirme l'étendue préoccupante de cette contamination dans le système reproducteur masculin. L'équipe de recherche, qui est dirigée par le docteur Ranjit Ramasamy, a analysé des échantillons de tissu du pénis prélevés chez des patients qui souffraient de dysfonctionnement érectile, et ces prélèvements ont été effectués lors d'interventions chirurgicales visant à implanter des prothèses péniennes gonflables. Les résultats sont sans appel. 80% des échantillons contenaient des microplastiques. Alors ces particules, elles mesurent entre 20 et 500 micromètres, donc c'est quand même assez petit. Certains peuvent être quand même visibles à l'œil nu, mais il n'empêche, ça n'a rien à faire dans cet organe, selon les chercheurs. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ne sont pas censés être là, et nous soupçonnons que cela pourrait entraîner un dysfonctionnement des muscles. C'est ce qu'explique le docteur Ramasamy dans une interview accordée au Guardian. Alors cette contamination, elle s'inscrit dans un contexte plus large de pollution plastique qui atteint l'organisme humain. Avant cette découverte, il y a des microparticules plastiques qui avaient déjà été identifiées dans les testicules et le sperme. Donc, l'accumulation de ces preuves dessine un tableau inquiétant pour la santé reproductive masculine. Les auteurs de l'étude n'hésitent pas à qualifier la situation de, je cite, « crise environnementale et sanitaire croissante ». Cette formulation assez forte, ça reflète l'inquiétude grandissante face à l'exposition généralisée aux microplastiques. Le docteur Ramasamy souligne l'aspect médiatique potentiel de cette découverte avec une formule directe. Je cite là encore, le pénis est le seul organe auquel tout le monde prêtera attention. Alors cette attention, elle pourrait effectivement contribuer à sensibiliser le public au danger des microplastiques sur la santé. Parce que si ces particules peuvent atteindre des organes aussi intimes, aucune partie du corps humain ne semble à l'abri. Cette prise de conscience collective devient urgente face à l'ampleur du problème. Les chercheurs rappellent que les comportements quotidiens contribuent largement à cette contamination. L'utilisation des bouteilles en plastique, la consommation d'aliments dans des contenants plastiques à emporter, particulièrement le réchauffage de nourriture dans ces récipients au micro-ondes, tout ça est pointé du doigt comme des sources majeures d'exposition. Et si cette étude établit la présence des microplastiques, les mécanismes précis par lesquels ces particules atteignent le pénis, ça reste encore à élucider. Et les chercheurs évoquent principalement l'exposition alimentaire comme voie probable. Les plastiques ingérés pourraient migrer dans la circulation sanguine avant d'atteindre divers organes, dont le pénis. Et au-delà de la simple présence, c'est l'impact potentiel sur la fonction érectile qui inquiète les scientifiques. Le docteur Ramasamy suggère un lien possible avec les dysfonctionnements musculaires sans pouvoir encore l'affirmer avec certitude. Et cette hypothèse ouvre un nouveau champ d'investigation sur les effets des microplastiques sur la santé sexuelle masculine. Et donc la découverte de microplastiques dans le pénis humain représente un tournant dans notre compréhension de l'exposition corporelle à ces polluants, parce que ça souligne l'urgence d'approfondir les recherches sur les conséquences sanitaires et de repenser notre relation quotidienne avec les matériaux plastiques. La contamination du système reproducteur masculin pourrait n'être que la partie visible d'un problème bien plus vaste affectant l'ensemble de l'organisme humain. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces présences de microplastiques à l'intérieur de notre corps. Ça devient de plus en plus inquiétant. Et peut-être que là, on est dans un aspect aussi peut-être quelque part marketing, c'est-à-dire que si ça touche une partie intime de l'homme, peut-être que la prise de conscience serait peut-être un petit peu plus efficace. Donc ça peut être aussi une façon de pouvoir aborder ce sujet qui est assez, assez important, bien évidemment.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Des petites brèves de Science et Avenir que vous pouvez lire. Il y a quand même des revues de vulgarisation scientifique qui sont vraiment bien faites. Et il y a des petites brèves dans Science et Avenir qui sont assez intéressantes. Par exemple, cette étude de l'université de Stockholm qui explique que pour attirer les moustiques, le vecteur, le virus Zika induit un changement d'odeur de la peau humaine qui l'infecte. C'est ce que montre donc cette équipe de chercheurs. Il y a plusieurs composés organiques volatiles libérés en plus forte quantité par certaines cellules qui sont infectées par ce virus et qui vont attirer les moustiques femelles et leur ouvrir l'appétit pour le sang de la personne qui est donc infectée par ce virus. Cette manipulation s'ajoute à celle indirecte et qui est déjà connue du microbiote épidermique par le virus qui modifie aussi l'odeur de la peau. Donc voilà, il y a vraiment le virus fait en sorte, enfin c'est quand même assez malin, ça fait en sorte que le moustique vienne nous piquer pour pouvoir justement ensuite proliférer. C'est tout l'intérêt du virus, bien évidemment. Autre petite brève qui a été que l'on peut trouver dans la revue Science et Avenir, pardon, je vais y arriver. Alors qu'il allait entrer en soins palliatifs, il y a un patient atteint de la maladie auto-inflammatoire rare de Kalsterman qui a été sauvé in extremis par un traitement identifié par l'intelligence artificielle. En fait, celle-ci a servi à passer au crible l'efficacité potentielle de 4000 molécules existantes en fonction de leur mode d'action et des caractéristiques de la maladie. Et elle a donc, l'intelligence artificielle, sélectionné un anticorps monoclonal qui s'appelle l'adalimumab, qui est indiqué habituellement pour l'arthrite ou le psoriasis. Et le patient est en remission depuis 2 ans. Quand même assez fascinant. Donc là aussi, l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet intéressant. Là, c'est une petite brève qui donne une petite illustration de l'utilisation de l'intelligence artificielle en recherche médicale. Il y a des avancées véritablement essentiel mené avec l'intelligence artificielle. Mais à chaque fois, comme on évoque ce genre de sujet, il y a aussi des aspects éthiques qu'il va falloir essayer de prendre en considération également. Mais là, on est un petit peu plus freiné, on va dire. Et c'est un petit peu dommage. Allez, on écoute encore un peu de musique sur l'antenne de Graphite. Puis on continue comme ça pendant cette petite heure à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Ça va me permettre de retrouver ma voix. On écoute Matt Lowe avec « Laisse faire le soleil ».
Si l'amour s'éteint, si l'amour
Faire le soleil, c'était Matelot sous l'antenne de Graphite. Nous allons parler des écrans et des enfants. La relation entre exposition aux écrans et problèmes de vision chez les plus jeunes vient d'être confirmée par des chercheurs coréens. Leur analyse exhaustive de 45 études qui impliquent plus de 330 000 participants valide l'impact significatif des appareils numériques sur le développement de la myopie. Cette découverte qui a été publiée il y a quelques semaines dans la revue JAMA Network soulève des questions essentielles sur les habitudes numériques et leur influence sur la santé oculaire des générations futures. Les chercheurs coréens ont mis en lumière une corrélation inquiétante entre le temps d'écran et la myopie, et donc ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse de différentes études, différentes recherches. Et là, en l'occurrence, ils ont quand même travaillé sur 45 recherches différentes. C'est quand même assez significatif. Et leur méta-analyse révèle qu'une heure quotidienne devant les écrans augmente les risques de cette condition visuelle de 21%. Pour les enfants déjà myopes, chaque heure supplémentaire accroît de 54% les chances d'aggravation de leur état. Le professeur Chris Hammond du King's College London, expert non impliqué dans l'étude, transpose ce résultat au contexte britannique. Il dit à l'enfant de 12-13 ans au Royaume-Uni, où la prévalence de myopie atteint environ 15%, verrait son risque grimper à 18% avec une heure d'écran quotidienne et jusqu'à 27% après 4 heures d'exposition. Ce phénomène, en fait, s'explique en partie par le fait que l'œil, lorsqu'il se concentre sur des objets proches pendant de longues périodes, subit des modifications dans sa forme. Et la myopie résulte principalement d'un allongement excessif du globe oculaire, condition que l'utilisation intensive d'écran semble favoriser justement. Et l'étude révèle l'existence d'un effet dose-réponse particulièrement préoccupant. Ça veut dire que les chercheurs ont identifié que par rapport à une absence totale d'exposition, eh bien, une heure d'écran quotidienne augmente le risque de myopie de 5%. Et ce risque s'envole dramatiquement à 97% pour 4 heures d'utilisation journalière. Le fait intéressant, c'est que l'augmentation du risque ralentit au-delà de ce seuil de 4 heures. Par ailleurs, les chercheurs suggèrent l'existence d'un seuil de sécurité potentiel, car aucune association claire n'a été établie pour une exposition inférieure à 1 heure par jour. Par contre, les scientifiques restent prudents dans leurs conclusions. Les auteurs de l'étude soulignent que l'utilisation d'écrans se produisant principalement à l'intérieur, la réduction d'exposition aux bienfaits protecteurs des environnements extérieurs pourrait contribuer à l'augmentation du risque de myopie. Alors, c'est une nuance importante qui rappelle que la corrélation n'implique pas nécessairement une causalité directe. C'est toujours dans le cas des recherches scientifiques, il y a quand même toujours des facteurs extérieur qu'il faut prendre en considération. Par contre, le professeur Robert Born, qui est un chirurgien ophtalmologue qui a travaillé sur cette étude, il souligne l'importance de ces découvertes pour élaborer des stratégies éducatives et des politiques de santé publique. Il y a une préoccupation majeure qui concerne les risques à long terme, car l'aggravation de la myopie augmente la probabilité de développer des conditions oculaires potentiellement cécitantes. On parle de cécité quand même. L'expérience naturelle des confinements liés au Covid a renforcé ces observations, dit-il. Et donc cette analyse associée aux études réalisées pendant les périodes de confinement liées au Covid suggère fortement que la combinaison d'enfants maintenus à l'intérieur et passant un temps significatif sur les écrans n'est pas bénéfique pour leurs yeux et que cette combinaison entraîne une myopie. C'est ce que précise le professeur amandes. Et donc, face à cette épidémie silencieuse, les experts recommandent de limiter l'utilisation des appareils numériques chez les jeunes enfants et d'encourager les activités extérieures. Et les projections indiquant que 40% des enfants et des adolescents pourraient être touchés par la myopie d'ici 2050, 40% des jeunes, enfin c'est quand même énorme, eh bien ils appellent à une prise de conscience collective et à l'adoption de mesures préventives efficaces. La limitation du temps d'écran représente aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique pour préserver la vision des générations futures. C'est quand même assez inquiétant, assez étonnant, assez alarmant, mais voilà, c'est quelque chose qui maintenant commence à être confirmé par des études scientifiques. Et c'est donc à prendre en considération, bien évidemment. Autre chose, voilà, vous êtes peut-être à table, hein, je vous souhaite un bon appétit, vous mangez peut-être du brocoli, hein. Peut-être, hein, parce qu'on n'en mange pas tant que ça. Hein. C'est un légume vert qui est souvent boudé et pourtant, il renferme des trésors nutritionnels insoupçonnés. Il y a une étude récente qui montre qu'il s'impose comme le deuxième légume préféré des Américains. Mais pourquoi les diététiciens font-ils tant l'éloge de ce brocoli? Il y a trois principaux bienfaits qui sont assez intéressants pour notre vie quotidienne. Alors, le brocoli appartient à la famille des crucifères. Ces légumes reconnus pour leur profil antioxydant exceptionnel. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce brocoli est en réalité la partie fleurie de la plante. La composition unique en fait un champion de la prévention. Les recherches scientifiques s'intéressent particulièrement aux glucosinolates qui sont présents dans le brocoli. Ce sont des composés soufrés. Alors c'est un peu responsable de cette odeur caractéristique et d'une saveur légèrement piquante. Et ces composés libèrent des substances bioactives lors de la mastication. Et d'après l'Institut national du cancer, ces molécules peuvent protéger l'ADN cellulaire contre les dommages, désactiver certains agents cancérigènes et favoriser l'élimination des cellules cancéreuses. Il y a plusieurs études épidémiologiques qui établissent un lien entre une consommation régulière de légumes crucifères et une diminution significative des risques de cancer du sein, du poumon et de la prostate. Une portion quotidienne de 200 grammes suffirait pour bénéficier de ces effets protecteurs. Oui, on ne va quand même pas manger 200 grammes de brocoli tous les jours, mais bon, c'est quand même... C'est la science qui donne ces informations-là. La santé cardiaque bénéficie également des propriétés exceptionnelles du brocoli. Il y a une synthèse scientifique publiée dans la revue Nutrients qui met en évidence les effets antioxydants des glucosinolates sur le système cardiovasculaire. Ces composés contribuent à réduire l'inflammation et à protéger les vaisseaux sanguins. Il y a au moins 8 études qui ont démontré que les personnes consommant davantage de légumes crucifères présentent des taux significativement plus bas de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Le brocoli, avec sa richesse en vitamine K, participe à la coagulation sanguine et au maintien de la santé artérielle. La vitamine C, il y en a aussi dans le brocoli, renforce également cette protection cardiovasculaire en maintenant l'intégrité des parois vasculaires et en luttant contre le stress oxydatif, qui est le facteur majeur de vieillissement cardiaque. Et le troisième atout majeur du brocoli, ça concerne directement notre microbiote intestinal. Avec ses 2 grammes de fibres par tasse, ce légume favorise la digestion et contribue au contrôle de l'appétit, ce qui en fait un allié pour la gestion du poids. Il y a une étude récente qui a examiné l'impact de la consommation quotidienne de brocoli sur le microbiote intestinal d'adultes en bonne santé. Après 18 jours de consommation régulière, les chercheurs ont observé des modifications positives dans la composition bactérienne intestinale des participants. Et cette transformation du microbiote suggère que le brocoli pourrait jouer un rôle préventif contre certaines pathologies digestives et inflammatoires. Et donc, pour profiter pleinement de ces bienfaits, la cuisson fait toute la différence. Le brocoli cru peut provoquer des ballonnements chez certaines personnes en raison du raffinose qui est un sucre non digestible. Et la cuisson décompose partiellement ce composé, ce sucre, ce qui réduit ainsi les effets indésirables. C'est pas plus mal. Les méthodes de préparation variées permettent également d'incorporer facilement ce légume nutritif à notre alimentation quotidienne. Donc voilà, le brocoli, il n'a pas bonne presse, mais il a quand même une bonne efficacité. Donc c'est quelque chose à prendre en considération, n'est-ce pas? Allez, bon appétit si vous mangez des brocolis ou autre chose d'ailleurs, et puis on continue à écouter un peu de musique et à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Mmh. folklore comes around, we see repeatedly, and what's more, we feel it unequivocally. But what gives? We know what gives. We know what gives. Made of concrete, made of all sorts, really. It's like we're living folklores here, really. Made of concrete, made of all sorts, really. But we're living folklores here, really. Made of concrete, made of all sorts, really. But we're living folklores here, really. Made of concrete, made of all sorts, really. But we're living folklores here, really. Made of concrete, made of all sorts, really. Made of sorts. But we're living folklores here, really.
To be unraveled.
Made of concrete, made of all sorts, really.
Souls at this point.
It's like we're living folklores here, really.
Lost in works, lost fun. Folklore comes around, we see repeatedly. And what's more, we feel it unequivocally. But what gives? We know what gives.
Jean-Noël Moreau, Biotine. Sur Graphite.
On vient d'écouter Moyne avec le titre We Know What Gives. C'était sur l'antenne de Graphite et c'est toujours sur l'antenne de Graphite. On va parler dans cette émission Biotine de Airbus qui est en train de travailler sur un avion de chasse. Et on en sait un petit peu plus sur le cockpit futuriste de cet avion de chasse. Un cockpit qui marque un petit peu un retour aux sources parce que au lieu d'avoir une multitude de cadrans, eh bien, l'interface est assez minimaliste, un peu comme celle des tout premiers aéroplanes du début du XXe siècle où il y avait un ou deux instruments de bord. Des avions qui se pilotaient aux fesses à l'époque, hein, ça veut dire se piloter dans tous les sens. Et pour alléger les tâches du pilote et lui permettre de se concentrer sur la gestion du combat avec sa meute de drones qui l'accompagnent, eh bien la planche de bord de l'avion du futur est un unique et vaste écran. Les autres écrans sont intégrés au casque du pilote avec la projection des informations critiques relatives à la mission devant ses yeux. Il y a un assistant numérique qui est dopé à l'intelligence artificielle qui fournit des mises à jour des informations utiles au pilote en temps réel. Ce qui est moins important n'est pas mis en avant pour éviter un petit peu de l'encombrer d'informations. Il faut dire que le pilote de chasse du futur ne sera pas forcément un as du manche, mais plutôt un chef de guerre volant. Il devra à la fois gérer ses ailiers, mener sa mission, et son avion servira aussi de centre de commandement pour les missiles hypersoniques et pourquoi pas des armes laser. Et donc l'interface, développée par Airbus prend en compte ces contraintes. Et donc pour faciliter la communication entre la machine et l'humain, eh bien l'avion comprendra les intentions de vol du pilote via des commandes gestuelles et vocales ou encore des mouvements oculaires. Une interface cerveau-machine est également à l'étude, c'est-à-dire que quelque part, on voudrait que l'avion comprenne directement ce à quoi pense le pilote. C'est quand même assez fascinant. Le cockpit, lui, il est également libéré de nombreux boutons. Hein. Il y a des capteurs qui permettent d'avoir une précision, et parce que grâce à ces capteurs, les gestes sont minimalistes, puisque l'idée consiste à faire en sorte que le pilote ne nage pratiquement jamais ses commandes de vol. Et donc, par exemple, sur le concept qui est testé actuellement en Espagne par Airbus, le manche à balai vibre dans la main pour donner au pilote une perception intuitive du régime moteur et des conditions de vol. Et donc, de simples mouvements de la main permettent aussi de gérer certains paramètres. Et en exploitant tous les sens du pilote, eh bien, la gestion de l'avion devient donc plus fluide, presque fusionnelle. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Le pilote d'essai de ce cockpit du futur, il s'appelle José Mirales. Il explique que ces tests permettent d'évaluer jusqu'où il est possible de pousser cette fusion entre la machine et le pilote. Pour lui, il apparaît acceptable de valider un changement de fréquence radio vocalement plutôt que de devoir la saisir manuellement sur le tableau de bord. Et donc ce cockpit virtuel mené en partenariat avec Thales est actuellement en phase de prototypage. Et on en saura sûrement un peu plus prochainement, mais il y a apparemment un développement assez accéléré en raison de la nécessité de bâtir une défense européenne plus autonome qu'elle ne l'est actuellement, bien évidemment. Et donc voilà, cet futur avion du combat européen, Airbus dévoile le cockpit du futur, et vous pouvez voir quelques images sur, je pense que sur le site internet de Airbus, vous pouvez voir cela, bien évidemment. Autre sujet, et il n'y a aucun rapport, on va parler de l'évolution progressive des mœurs et des consciences. Et bien que le masculinisme soit en nette augmentation chez les jeunes, et bien on pourrait penser que les inégalités de genre sont un lointain souvenir. Pourtant, lorsqu'on regarde autour de nous, elles sont bel et bien toujours présentes. Et la salle de sport fait partie de ces milieux qui sont historiquement et culturellement préférentiellement occupés par des hommes. Ce constat est toujours vrai, même si les statistiques évoluent avec une fréquentation féminine de plus en plus grande. Et bien malgré ça, l'expérience des femmes au sein des salles de sport n'a rien à voir avec celle des hommes. Cet état de fait peut être préjudiciable du point de vue de la santé publique. En effet, une expérience désagréable, voire violente psychologiquement dans un lieu dédié au sport et au bien-être peut agir comme un frein et limiter l'activité physique des femmes, ce qui augmenterait leur risque de développer des pathologies liées à la sédentarité. Et donc, dans une récente étude publiée dans la revue PLOS ONE, il y a eu des chercheurs et des chercheuses irlandais britanniques qui retranscrivent l'expérience d'un échantillon de 280 femmes dans les salles de sport à l'aide de données quantitatives et qualitatives. Et donc, sur ces femmes interrogées et recrutées via les réseaux sociaux, 85% ont moins de 50 ans et 84% se rendent régulièrement en salle de sport. Et concernant les pratiques sportives respectives, donc 85% se rendent à la salle de sport 2 à 6 fois par semaine, par exemple. Et d'autre part, un peu plus de la moitié d'entre elles se perçoivent comme ayant un poids normal et un peu plus d'un tiers ont un objectif de perte de poids. Elles ont toutes répondu à un questionnaire en ligne. Et c'est un fait robuste dans la littérature scientifique. Les femmes souffrent plus d'insatisfaction corporelle et perçoivent leur corps comme plus négativement, et cela peut conduire à des comportements d'évitement de l'exercice physique, qui plus est dans un environnement comme la salle de sport, souvent rempli de miroirs. Et les scientifiques, ils ont investigué un petit peu les liens statistiques qui existaient entre différents aspects de l'image du corps, l'appréciation corporelle, fonctionnelle, l'attitude socioculturelle, et du coup, ils ont essayé un petit peu d'étudier ça et d'avoir un petit peu une idée sur comment les femmes décrivent-elles leur expérience à la salle de sport. Et peut-on dégager des aspects systémiques de ces descriptions en lien avec l'image du corps et avec les normes un peu masculinistes qui règnent au sein des salles de sport? Les questions étaient mixtes et donc elles ont répondu à un questionnaire, et l'analyse des réponses formulées par l'échantillon des femmes interrogées permet de mettre en exergue quatre grandes thématiques de l'expérience en salle de sport: l'impression de n'en faire jamais assez, de n'être jamais assez bien, une critique exacerbée envers soi-même et l'impression d'être exposé en vitrine pour la consommation visuelle des hommes, dit-elle. Et pour finir sur la seule note positive, c'est une sensation de reprise de contrôle sur soi que les auteurs qualifient d'empouvoirment. Alors, la première thématique se donne à voir dans des discours sur le jugement perçu des femmes vis-à-vis de leur apparence et de leur performance. La deuxième thématique de n'être jamais assez bien, eh bien, ça apparaît dans les propos qu'ont les femmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Le troisième, c'est-à-dire une critique exacerbée envers soi-même, se fait ressentir dans les expériences d'harcèlement et d'insécurité. Et puis, la quatrième et dernière thématique fait référence aux propos d'empouvoirment des femmes vis-à-vis de la salle de sport qu'elles fréquentent. Et les chercheurs ont proposé plusieurs pistes d'intervention qui se déclinent selon quatre niveaux d'analyse. L'idée, c'est justement de faire en sorte qu'on pourrait, par exemple, agencer l'espace de la salle pour que les femmes de toute taille et de toute corpulence puissent facilement y accéder et s'y sentir bien. Par exemple, en investissant dans des équipements user-friendly, s'assurer que les nouveaux membres se sentent bien dans la salle en leur donnant des indications appropriées, produire des vêtements qui prennent en compte les besoins des femmes et s'adaptent à toutes les corpulences. Et puis au niveau social, il y aurait aussi pas mal de choses à faire. Donc c'est une étude assez intéressante que vous pouvez découvrir dans Futura Science sur le site de Futura Science qui a un dossier assez complet sur ce sujet-là. Mais il en ressort que même en 2025, la salle de sport reste un milieu hostile pour les femmes. Et donc, c'est une, comment dire, une prise de conscience, je dirais pas assez nouvelle, mais en tout cas qui est assez nouvelle d'un point de vue scientifique, parce qu'il y a une étude qui a travaillé sur ce sujet-là. Effectivement, on est face à une évolution des mœurs peut-être un petit peu trop lente, et la salle de sport est vue encore comme un milieu un peu viriliste où il ne fait pas bon d'être une femme. Et donc cette étude qui a été menée essentiellement par des équipes britanniques permet d'avoir une... quelque part des chiffres et apporte un petit peu plus d'illustration sur ce constat. Voilà. On va écouter un dernier titre. Oui, je regarde l'heure. On a encore le temps d'écouter un dernier titre. Et puis on se retrouvera sur l'antenne de Graphite pour terminer cette émission. On va écouter Laura KN, que j'avais découvert il y a 3 semaines, je crois, dans cette émission, dans la playlist, de Graphite. Je trouvais le titre très sympa et j'avais envie de le réécouter aujourd'hui.
Derrière mes yeux, tu vois même le feu.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
C'était Les Astres de Laura Kahn. J'aime beaucoup ce titre, je trouve ça très sympa. Merci Laura Kahn, c'est tellement agréable. Alors, pour terminer cette émission, trois petites brèves. La première, c'est la vitesse maximale de ce skateboard électrique fabriqué par une start-up australienne, Radium Performance, qui promet des expériences folles pour les passionnés de skate et surtout de vitesse, parce que c'est un skate qui ira jusqu'à 72 km/h. C'est le tout premier engin du constructeur qui indique avoir passé plus de 4 ans sur sa conception. Un constructeur qui annonce des performances impressionnantes avec une puissance de 8000 watts qui lui permet de passer de 0 à 48 km/h en seulement 3 secondes. Quand même assez impressionnant, pour ne pas dire affolant. Faut aimer la vitesse. Le skateboard est inspiré des voitures de Formule 1 avec un châssis creux en fibre de carbone directement lié à la suspension qui contient la batterie et toute la partie électronique. Et cela facilite l'accès pour la manutention ou le changement de batterie, puisqu'il suffit de retirer la planche grâce à ses 8 vis, mais pas besoin d'y toucher pour l'ajuster puisqu'il est accompagné de l'application mobile pour les réglages. C'est trop génial. Le constructeur annonce que c'est le premier skateboard électrique à intégrer un système de vectorisation de couple. Autrement dit, le couple peut être réparti indépendamment à chaque roue, ce qui permet de mieux gérer les virages et d'améliorer la réactivité et l'agilité. Et les moteurs sont reliés aux roues grâce à des courroies en uréthane renforcé par des fibres d'acier. Alors, impossible d'utiliser un tel skate sur les routes de France, hein, puisque tout engin de cette catégorie doit être bridé à 25 km/h. Donc, vous n'irez pas jusqu'à 72 km/h. Toutefois, si vous voulez l'acheter et quand même le tester, eh bien, il faudra à environ un peu moins de 3 000 €. Alors attention, on nous dit que c'est un prix réduit limité aux 100 premières commandes. À mon avis, ça a déjà été fini, mais en tout cas c'est cher, ça passe de 0 à 48 km/h en 3 secondes et ça va jusqu'à 72 km/h, ce nouveau skate. Eh bien, écoutez, si vous aimez ça, allez-y, n'hésitez pas. Deux petites brèves de Science et Avenir pour finir. Le cœur. Le cœur qui n'est pas le seul organe impliqué dans la propulsion du sang. L'aorte, plus grosse artère de l'organisme, qui sort du ventricule cardiaque gauche et distribue le sang oxygéné dans tout le corps, possède des propriétés élastiques qui amortissent les variations de pression. Il y a une équipe de l'Université de Californie du Sud qui vient de démontrer que son rôle est plus important encore. Ils ont fait des mesures réalisées par IRM sur des patients et ils ont mis en évidence comme un effet de pompage indépendant du cœur qui est produit par l'étirement et le relâchement de ce gros vaisseau sanguin. C'est un phénomène appelé pompage par onde qui repose sur la capacité de l'aorte à stocker de l'énergie lors de la contraction du cœur, et à la restituer durant sa relaxation. Et pour expliquer pourquoi certains cœurs fatigués parviennent à maintenir une circulation sanguine suffisante, l'aorte compensant en partie l'insuffisance cardiaque, l'aorte qui fonctionne donc comme un deuxième cœur. C'est donc ces chercheurs américains qui ont mis en évidence cet effet de pompage. C'est assez intéressant. Et enfin, dernière information, la statuaire gréco-romaine n'était pas seulement peinte et ornée, mais elle était aussi parfumée avec des huiles et des substances aromatiques. C'est ce que révèle une nouvelle étude qui croise des textes anciens et des traces qui ont été relevées sur des œuvres d'un musée de Copenhague au Danemark. C'est d'ailleurs l'université de Copenhague qui a travaillé sur cette étude. L'une des techniques employées consistait à enduire les statues de cire et d'huile qui permettaient d'offrir une expérience olfactive tout en préservant leur surface et les embellissant. Donc les statues grecques étaient parfumées. On n'avait jamais pensé à ça. Effectivement, bien sûr, tout a disparu entre-temps, mais voilà, elles étaient parfumées, les statues grecques. Et bien, c'est sur cette information que je décide de vous quitter et de vous souhaiter une bonne suite, une bonne journée, bien sûr, à l'écoute de nos programmes sur Graphite. On se retrouve samedi prochain, on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est passionnant, on ne s'en lassera jamais. Merci de votre fidélité et de votre attention. À samedi prochain, 12h, sur l'antenne de Graphite. À bientôt, au revoir.